Ces deux autoportraits sont à cet égard significatifs. Si dans l'un, celui peint pour Jean Pointel en 1649, une sorte de bienveillant amusement détend les traits de son autoritaire visage, dans l'autre, celui peint par Paul Fréard de Chanteloup, l'expression est vive, le regard presque courroucé, comme d'un homme dont on trouble le soleil, le sommeil ou la méditation, alors que c'est lui-même qui s'interrompt en se peignant devant un miroir. À mon sens, le deuxième et sévère portrait est le plus significatif. L'homme qui nous fixe dans les yeux n'est pas seulement un habile facteur, un maître conscient de son orgueilleux génie. C'est aussi un homme qui a, dans la solitude, abordé des rivages inconnus, dialogué avec des puissances ou ténébreuses ou radieuses. On imagine aisément que l'énigmatique profil de femme visible derrière lui, sur un tableau à demi caché par un cadre, et l'image de la Minerve casquée qui le guidait dans le monde où les fables s'incarnent. La connaissance est un gouffre sans fin. On en revient, quand on en revient, illuminé ou fou. Plus on contemple ce portrait, plus on se persuade que l'homme qui s'est ainsi peint de face, sans complaisance, est un médium. Médium au sens où on l'entend d'un poète qui capte des messages, les décode pour les éclaircir, ou au contraire, les livre bruts, gros de mystères qu'il dédaigne d'expliciter. À nous de rêver ou de refuser. Plus la pose est hiératique, plus belle est la forte main d'artisan ornée à l'auriculaire droit d'une bague en serrant un diamant et son mystérieux chaton pyramidal. Plus cet homme, malgré les apparences, se révèle un anxieux. À son protecteur, Chanteloup, il écrit de Rome « Je ne suis point homme léger, ni changeant d'affection, quand je l'ai mise dans un sujet. » Dans la vie, l'intime conviction de sa grandeur le trouve d'abord conciliant à l'égard des puissants, pour ne pas dire serviable, puis soudain révolté. On le condamne, dit-il, à des travaux mineurs qui reportent à des lendemains incertains ce pourquoi il a été omis au monde. Il a tant de fois peint la mort, mort d'Adonis, de Narcisse, de Priam, d'Hippolyte, du Christ, qu'elle est sans cesse présente à son esprit, impérieuse statue du commandeur, lui rappelant la brièveté de sa mission d'artiste. La mort, cependant, le fera attendre 71 années, un bel âge pour cette époque, bien que les deux dernières aient été empoisonnées par les séquelles du mal napolitain ou du mal français selon le côté de la frontière où on se situe. Un artiste croit n'avoir jamais tout dit, comme il a dû envier le Titien mort, dit-on, à 99 ans et de la peste. De la mélancolie si digne, si noble, qui imprègne les toiles d'avant la cinquantaine, on passe insensiblement à une angoisse de plus en plus oppressante. Le temps va-t-il lui manquer? Toute œuvre ambitieuse aspire à la durée humaine. L'éternité est sa grande frayeur. Au bas du tableau, qui fut probablement le pendant du tableau d'Orphée et Eurydice, un homme est étouffé par un serpent. Ce serpent, qui dans la symbolique de nombreuses religions, figure tantôt le mauvais principe, tantôt le bon, parfois les deux ensemble. On croit le serpent immortel, parce que levé sur lui-même, il est le cercle parfait, sans fin, le signe de l'éternel retour du temps. À maintes reprises, le serpent apparaît dans l'œuvre du Poussin, mordant Eurydice, menaçant le Pharaon, caché dans un pommier du paradis, mort et enroulé autour d'un chêne, tandis qu'Apollon séduit Daphné. approchant deux innocentes nymphes, se dédoublant pour grimper à un arbre ou gagner un rocher qui le sauvera du déluge. Certes, rien de ce que l'on sait du poussin ne permet de le soupçonner d'ophiolatrie. Mais l'image est là, insidieuse, insistante, troublante, l'image de l'animal par qui le péché originel s'est accompli, précipitant les hommes hors du paradis et que seul l'art sauve du désespoir. La richesse et la variété des thèmes traités par le poussin a suscité beaucoup d'interrogations. Parce qu'il a quitté l'école à 15 ans, on a mis en doute sa culture, ou au contraire, on s'est extasié sur ses connaissances de la mythologie, de l'Ancien et du Nouveau Testament, de la littérature latine, en particulier d'Ovid, sans peut-être songer qu'il appartenait à une époque où les humanités faisaient partie du bagage naturel de tout jeune lettré partant pour Rome. Le Poussin fut au premier degré un peintre littéraire, au talent et à l'imagination fiévreusement enrichis par les courants d'idées qui exaltaient les hommes de sa génération et par les fables qui nourrissaient leurs songes et réveillaient leurs craintes. Parmi les